Chapitre 16. La poursuite. Logique avec lui-même, Chrysler avait voulu jouer jusqu'au bout son effroyable partie. Au risque de voir Ladler chaviré par une lame, il avait viré de bord et, à petite vitesse, tenté de rejoindre les fugitifs. À vrai dire, le bandit, en entreprenant cette manœuvre désespérée, ne savait guère comment il aboutirait à ses fins. Malgré la tempête qui faisait rage, c'était en somme une tâche assez facile pour le yacht que de rester en vue du You-You, surtout maintenant que l'Adler avait réussi à changer de direction sans être englouti. Mais après, ou bien le You-You serait avalé par les lames, ou bien il continuerait à flotter. Aucune de ces deux alternatives n'était pour satisfaire Chrysler. Ce qu'il voulait, c'était reprendre ses victimes. Or, il n'avait pas d'embarcation pour leur donner la chasse. L'Adler pouvait lui servir à suivre les fugitifs, à couler leurs canots même, mais non pas à s'emparer d'eux, à moins d'une défaillance de leur part. Chrysler se cramponna à cet espoir. Jellis, dont il ignorait la mort, était vieux, Margaret Drake n'était qu'une faible femme, et même si elle résistait, la vue de ses souffrances pousserait son père à tout accepter pour les faire cesser, malheureusement restait cet inconnu. L'homme que Chrysler devinait être l'artisan de tout, Pierre Fernault, que ferait-il? N'empêcherait-il pas ses compagnons de se rendre? Bon, on verrait bien, pour l'instant, il fallait parer au plus pressé. Des hommes de vigie furent placés à l'abri des bastingages tout autour du navire, avec ordre de ne pas perdre le You-You de vue, ce qui était presque impossible, et surtout de se tenir prêt au premier coup de sifflet à lancer des bouées lumineuses à la mer. Ceci au cas où le You-You coulerait. Chrysler comptait sur l'instinct de la conservation pour pousser les fugitifs à nager vers les bouées et à s'y cramponner. En ce cas, l'Adler resterait en vue des bouées jusqu'à ce que la tempête s'apaisât et permît de mettre un radeau à la mer pour reprendre les fugitifs. Ce radeau, quatre hommes furent sur le champ chargés de le construire et de tout préparer pour son lancement. Bourbach monta des fusées sur la chambre de veille. Elle devait permettre, le cas échéant, de faire des signaux au radeau pour l'aider à retrouver le yacht. Avant tout, organiser à la manière allemande pour attraper ses victimes, Chrysler, sans éloigner des yeux les jumelles avec lesquelles il ne cessait de fixer le You-You, ordonna qu'on lui amenât Marbourg. L'ancien assistant d'Elwell, après sa brève explication avec Chrysler, était tant bien que mal redescendu sur le pont et avait regagné sa cabine où le maître d'hôtel, un ancien étudiant en médecine, l'avait pansé. Il reposait sur sa couchette lorsqu'un matelot vint lui transmettre le désir qu'éprouvait Chrysler de le voir sur le champ. Marbourg, à demi délirant de fièvre, car la blessure était sérieuse, dut être aidé pour s'habiller. Titubant, claquant des dents, et avec cela tremblant de peur, car il se doutait bien que ce n'était pas pour lui faire des compliments que Chrysler l'envoyait chercher, il arriva sur la passerelle après avoir été deux fois roulé par les coups de mer. Chrysler, brutalement, le poussa dans un angle à l'abri du cagnard, triangle de toile soutenu par le montant de la tente. « Que s'est-il passé exactement ?» lui cria-t-il dans l'oreille. « Et pas de mensonge, hein, ni de réticence, si tu tiens ta peau !» Marbourg, grelottant de fièvre, autant que de terreur, raconta ce qui lui était advenu. Comment, en revenant de la réserve où il était allé chercher des vivres, il avait été attaqué à l'improviste par deux inconnus. « Mais tu mens, il n'y en avait qu'un, je l'ai vu dans le canot !» interrompit Chrysler. « Faut-il que je fasse fouetter, va ?» « Il n'y en avait peut-être qu'un, » balbutia Marbourg. « J'ai pas bien vu. J'ai reçu une balle dans la poitrine. Je suis tombé. L'homme ou les deux hommes en ont profité pour s'emparer de moi. J'avais dû me suivre car ils m'ont porté dans la chambre de froid. Je n'avais pas fermé à clé. Vous ne pouvez pas penser que nous eussions des ennemis à bord. Mais je t'avais pourtant donné des instructions formelles, imbécile. Allez, continue. Parmi le mugissement des paquets de mer se poursuivant sur le pont du petit navire, les hurlements du vent, Marbourg continua. Il affirma que l'inconnu connaissait le maniement des appareils à congélation et que c'était lui qui avait ranimé les prisonniers. Lui, Marbourg, s'était évanoui et lorsqu'il était revenu à lui, il n'avait plus vu personne. Malgré sa blessure et la faiblesse résultant de sa perte de sang, il avait voulu immédiatement prévenir Kressler. Tout ce récit demanda près de 20 minutes, car à chaque instant, des rafales emportaient les paroles de Marbourg. Il devait les répéter. Et d'autres fois, le misérable, perdant son équilibre à la suite d'un coup de tangage, s'affaissait dans l'angle de la passerelle. Kressler, se baissant, le relevait brutalement. Et meurtri, confus, étourdi, frissonnant de fièvre et de froid, Marbourg devait reprendre le fil de son récit. « Tu es un traître, un imbécile !» conclut Kressler, dès que son acolyte eut terminé. « Deux espèces également nuisibles, les imbéciles surtout. As-tu seulement vérifié si les appareils sont intacts ?»« Je n'y ai pas pensé, » bafouilla Marbourg. « Un imbécile, oui, c'est cela. Allez, va te coucher et sors pas de ta cabine sans mes ordres. » Marbourg fit entendre un grognement sourd, mis et, rampant le long des rambardes, se dirigea vers l'échelle. Kressler, tout en écoutant son acolyte, n'avait pas perdu le you-you de vue. Grâce à l'ancre flottante construite par Fernaud, le frêle esquif continuait à se maintenir sur l'eau. Il apparaissait et disparaissait sur la crête des lames, taches grises parmi les vastes nappes d'écume d'un blanc livide éparse sur l'océan. Kressler avait fait ralentir l'allure de la machine, qui tournait le plus doucement possible, juste pour empêcher le yacht de dériver sous l'action de la bourrasque. Maintenant que l'Adler n'avançait plus, l'assaut des lames contre lui était devenu moins acharné, les coups de mer moins violents et moins fréquents. Le jour était proche. Vers l'est, une bande livide, cuivrée, faisait pâlir le ciel noir au ras de l'horizon. Kressler, abandonnant quelques secondes ses jumelles, parvint à enflammer un tison dont il alluma un cigare. Peu à peu, il imaginait un nouveau plan. La mer s'était légèrement calmée. Au jour, si le you-you flottait encore, peut-être pourrait-on mettre à la mer le radeau que les marins de l'Adler étaient en train de construire. Le you-you serait rejoint, ses occupants faits prisonniers, et tout se réduirait à une alerte, imbécile de Marbourg. Mais contrairement à ce qu'espérait Kressler, la mer grossit encore après le lever du soleil, bien que le vent ait diminué de violence. Le you-you, plus secoué que jamais, ne parut pas devoir résister bien longtemps. À l'aide de ses jumelles, le bandit put voir que les fugitifs étaient tous occupés à vider l'eau que les lames dévernaient par paquets dans le frêle esquif. Le moment allait venir où les malheureux, à bout de force, cesseraient de bâiller, et alors ce serait la fin. La fin du you-you et aussi la fin des ambitions de Kressler. Cet instant vraiment était proche. Les victimes de Kressler, ivres de fatigue et d'épuisement, n'agissaient plus que sous l'influence de l'instinct de la conservation. Margaret Drake et son père, surtout, étaient au bout de leurs forces. Charles Elwell et Pierre Fernaud, plus robustes, accomplissaient seuls une tâche utile. Car François Drake et Margaret, hagards, moribonds, ne se mouvaient plus que mécaniquement, sans bien comprendre ce qu'ils faisaient. Ils s'efforçaient de rejeter à la mer, à l'aide d'une écope, l'eau emplissant le canot. Mais leur mouvement était si maladroit que l'écope, la plupart du temps, était vide lorsqu'ils la secouaient au-dessus du bordage. Et pas un mot. Les infortunés avaient la même pensée en tête, ils le savaient. Alors inutile de se la communiquer. Ils lutteraient jusqu'à l'épuisement de leurs forces, jusqu'à ce qu'une lame engloutît le Yu-Yu. Il n'y avait rien d'autre à faire. Dans combien de temps viendrait la fin? Oh, pas longtemps, bien sûr. Cela, ils le sentaient tous. Margaret Drake fut la première à s'abandonner, non par manque d'énergie, mais simplement par épuisement de ses forces physiques. Une lame, assaillant l'embarcation, s'abattit sur la jeune fille. Elle poussa un léger cri et tomba en avant sur les bancs, tandis que les copes s'échappaient de ses mains mobiles. « Ma fille !» gronda Francis Drake, en se précipitant sur Margaret, qu'il souleva et serra dans ses bras. Une secousse de l'embarcation le fit trébucher. Il s'affaissa entre deux bancs dans le fond du canot, sans cesser de presser sa fille contre lui. « Donnez, fait !» grommela Charlewell, découragé. « Inutile de se fatiguer davantage. Je ne pense pas, » fit simplement Fernot. Lui aussi croyait que tout était fini. Il voyait la mer grossir encore et savait que le Yu-Yu, aux trois quarts plein, était à la merci de la première lance, mais un peu forte. Il lâcha le seau avec lequel il le copait et s'assit aux côtés du chimiste. Les deux hommes, silencieux, regardèrent en silence la masse blanche de l'Adler qui se balançait violemment à 200 mètres d'eux. Un mince voile de fumée rousse, aussitôt rabattu par le vent, jaillissait de son tuyau jaune. Par instant, le yacht disparaissait entre deux montagnes d'eau jaunâtre, la pointe de ses mâts se distinguant seule, et rien d'autre en vue. Un voile gris cachait complètement l'horizon. Aucun espoir possible. Pierre Fernault eut un geste d'impuissance. C'était bien fini. Il abandonnait la lutte. Oh, nous avons fait ce que nous avons pu, murmura-t-il entre ses dents, comme pour se justifier lui-même. Oh, regardez, halta Shelwell, en se dressant comme si un ressort l'eût soulevé. Le long des flancs de l'Adler, un bizarre assemblage de planches et de barils descendait lentement, suspendu au porte-manteau de la grande chaloupe. Des cordes étaient fixées à chacune des extrémités de l'extraordinaire engin et servaient aux marins, disséminés sur le pont du yacht, à en atténuer le balancement. En quelques instants, le radeau, car c'était le radeau construit sur les ordres de Chrysler, eut touché l'eau. Une demi-douzaine de matelots à qui Chrysler avait promis $2000 si la tentative réussissait, se laissèrent glisser le long des flancs du yacht pour s'embarquer sur le rudimentaire engin. Deux d'entre eux, soulevés par une vague, furent projetés contre la coque de l'Adler et écrasés comme des punaises. Un troisième tomba entre le yacht et le radeau. Il revint à la surface si malencontreusement que le radeau le broya contre les flancs du yacht. Mais déjà Chrysler doublait la récompense promise, $4000, de quoi vivre sans rien faire. D'autres bandits réussirent à rejoindre les trois qui avaient pu prendre pied sur le radeau. Fernot et Charles Eswell, immobiles, virent Chrysler lui-même, où ils le reconnurent malgré la distance, descendre à son tour à l'aide d'une corde et sauter la plateforme de bord. Ils virent que les marins restés à bord du yacht faisaient passer des fusils, des gaffes et des avirons à l'équipage du radeau. Puis, brusquement, le barbare engin s'éloigna du yacht et, sous l'action de six robustes rameurs, se dirigea vers le Yu-Yu. Chrysler avait compris que le petit canot n'en avait pas plus longtemps. Maintenant, après avoir tout risqué, il risquait sa peau, même pour reprendre ses victimes. Le radeau, manié par six vigoureux bandits et guidé par Chrysler lui-même, qui, debout à l'arrière, le dirigeait à l'aide d'un aviron, se rapprocha lentement des fugitifs. Plusieurs fois, il faillit chavirer ou être roulé par des lames, mais l'habileté de Chrysler et sa vigueur le maintinrent. Le you-you maintenant était plein. Cramponnés au banc, Francis Drake, qui continuait d'étreindre sa fille toujours évanouie, Pierre Fernault et Charles Elwell avaient de l'eau jusqu'à la ceinture. Seul Drake n'avait pas encore vu le radeau. Il n'avait Dieu que pour Margaret, affaissée, inerte, contre sa poitrine. « Monsieur Drake !» clama soudain le Canadien. « Voilà Chrysler qui arrive !»« Chrysler ?» s'écria le financier, hagard. « Oui, il est sur un radeau, à 100 mètres de nous, regardez !» Francis Drake tourna la tête et distingua la silhouette anguleuse du bandit qui, son aviron bien en main, droit, les traits encore durcis par l'effort, se dressait comme le génie du mal à l'arrière du radeau. Ses yeux s'injectèrent de sang. Un tremblement le saisit. Mais il ne prononça pas une parole. Il se sentait trop son impuissance. La voix dure de Chrysler retentit, décuplée par un mégaphone de cuivre. « Ne bougez pas, je viens vous sauver !»« Ah, moi, je préfère la noyade !» gronda Fernault entre ses dents. « Moi aussi !» fit Elwell. Francis Drake ne répondit pas un mot. Il regarda sa fille, et comme si Chrysler l'eût deviné, il cria « Mais laissez-moi au moins sauver Miss Drake !»